Débutons notre travail par une présentation du contexte global. Les années 1930 font apparaître un contexte de grande tension dans lequel la Seconde Guerre mondiale va trouver ses causes, l'instabilité de la paix du traité de Versailles de 1919, la crise économique de 1929, la faiblesse de la Société des Nations, la présence de régimes totalitaires et autoritaires en Europe et en Asie, ainsi que l'inaction occidentale face à leurs provocations construisent ce contexte tendu. Déclenché le 1er septembre 1939 par l'invasion conjointe de la Pologne par Staline et Hitler, la Seconde Guerre mondiale s'étend en France avec le déclenchement de la bataille de France entre le 10 mai 1940 et le 22 juin 1940.
Confrontée à la violence et la redoutable efficacité de la technique de guerre éclair, la France, mal préparée, ne disposant pas assez d'avions et de chars ou d'armements modernes, est vite submergée. Les troupes allemandes, contournant la ligne Maginot, entrent par le nord sur le territoire français. Le 14 juin, la frontière est franchie à Sedan. Les civils fuient devant l'avancée des troupes de l'Axe, c'est l'exode. Paris tombe sans combattre le 14 juin 1940. La Troisième République va être enterrée dans un semblant de légalité. Le 16 juin 1940, Pétain devient président du Conseil. L'armistice est signé le 22 juin à Rétonde. La France est coupée en deux par la ligne de démarcation. De Gaulle, quelques jours avant, le 18 juin, a appelé de Londres à poursuivre le combat. Le 9 et le 10 juillet, la Chambre des députés et le Sénat valident la révision des lois constitutionnelles déléguant ce pouvoir à Pétain. Les actes constitutionnels sont promulgués le 11 juillet. C'est le début du régime de Vichy.
Ce régime est défini par trois éléments. C'est un régime autoritaire. Les libertés, les syndicats, les partis politiques et les chambres parlementaires sont suspendues. Pétain concentre tous les pouvoirs. Sa figure est valorisée par une intense propagande et un fort culte de la personnalité. C'est un régime de collaboration. Le 24 octobre 1940 à Montoire, Pétain rencontre Hitler et annonce quelques jours plus tard installer la France sur le chemin de la collaboration. Les produits agricoles, industriels, les jeunes travailleurs sont orientés vers l'Allemagne, y compris vers son armée. C'est le STO, ou Service de Travail Obligatoire, créé par Pierre Laval en 1943. C'est un régime antisémite. Le 18 octobre 1940, Pétain publie le statut des Juifs, loi d'exclusion de ce qui est appelé la race juive. L'étoile jaune leur sera bientôt imposée, le fichage, les arrestations, les rafles et les déportations viendront ensuite sans que l'Allemagne nazie n'ait exigé quoi que ce soit des autorités françaises. 75 721 juifs ont été déportés vers des centres de mise à mort, soit 20%, dont 42 000 pour la seule année 1942. 5 300 juifs sont escapés de la déportation.
Commençons avec un point sur la situation de notre territoire, la Bresse bourguignonne. En 1940, la Bresse se situe en zone libre, sous l'autorité du régime de Vichy. Cependant, après le débarquement en Afrique du Nord, en 1942, la ligne de démarcation est franchie par l'occupant. La Bresse est alors coupée. Les soldats allemands sont présents partout. Les conditions de vie sont difficiles. Les pénuries, rationnements, restrictions, couvre-feu, limitation des déplacements, contrôles incessants, arrestations. Les premiers actes de résistance apparaissent alors. La Bresse est l'un des rares maquis de plaine. D'importantes lignes de chemin de fer parcourent le territoire. Plusieurs groupes de résistants y opèrent. Henri Vincent, Marcel Dandelot, Paul Buatois, Henri Boulet, Henri Coulon, Gaston Fézy, Claude Forêt, Alfred Gross, Louis Richard ou encore Robert Fichet sont des exemples de ces résistants bressons. Nous retrouvons les différentes formes de la résistance en Bresse. La résistance intérieure armée, la résistance civile et la résistance par l'information.
Venons-en à notre sujet particulier, celui de cette famille de Juste parmi les nations. Les Genêts, habitant en Simard, une commune proche de notre collège. Jean-Claude Genêts est né le 12 septembre 1882 à Devrouze, est marié le 7 octobre 1909 à Eugénie Marchaud, née le 31 mars 1887. Ils sont agriculteurs sur la commune de Simard. En 1943, ils recueillent un jeune enfant juif âgé de 11 ans, Henri Couag, à la demande de sa mère, caché elle aussi dans les environs. Le couple Genêts avait un fils prisonnier de guerre qui resta comme beaucoup en captivité jusqu'à la libération. Henri est accueilli comme leur propre fils. Ce dernier se rend utile en tant que valet de ferme et berger. Les voisins de la ferme ont aussi gardé le secret.
La situation se tend cependant le 23 août 1944. Ce jour-là, une colonne de soldats allemands traverse le village pour aller livrer bataille non loin de là contre des maquisards. À leur retour, les soldats attaqués par des résistants bressants au lieu-dit de Quin et du Petit Cerisier répliquent et engagent une répression féroce à l'encontre de leurs assaillants, mais également contre la population. Ils mettent ainsi le feu à plusieurs bâtisses, abattent Jean-Claude Genêts et frappent son épouse pourtant handicapée. Sur le chemin, ils exécutent M. Richard, puis Guy Chemin, agent de liaison et maquisard réfugié dans une maison, mais aussi le fils de la famille Sergent, ainsi que deux clients, M. Geoffroy et M. Godilla, ainsi que deux employés du moulin du Galet, M. Rivière et M. Gautheron. Les soldats allemands blesseront M. Reboulet, gendarme circulant à bicyclette, qui décédera de ses blessures. Le jeune garçon, Henri Quag, lui-même blessé par balle au genou droit, a néanmoins survécu à ce drame. Il fut d'ailleurs recueilli par un fermier du hameau des Topes, M. Godilla. Une plaque a été disposée dans la commune de Simard, faisant figurer la phrase suivante : « Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. »